Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous. Dans Vue d'Allemagne, cette semaine, on s'intéresse à la reine des Écossais et il ne s'agit pas d'Elisabeth II, mais de Nicola Sturgeon, leader du parti nationaliste écossais SNP. Et depuis que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne, Miss Sturgeon milite ardemment pour l'indépendance de sa région. Mais avant, on prend un peu de hauteur pour se pencher sur ce qui fait l'actualité de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec notamment le retour sur Terre du spationaute français Thomas Pesquet. C'est Constance Dungotze au micro. Merci d'écouter la Deutsche Welle. Vous aurez peut-être reconnu une version piano de la célèbre chanson Space Oddity du chanteur britannique David Bowie. Et c'est bien une odyssée dans l'espace que nous vous proposons aujourd'hui avec l'ESA. SOS, ESA, c'est quoi ?
C'est l'acronyme de European Space Agency, l'agence spatiale européenne.
Et il se trouve que la semaine dernière, une poignée de représentants de cette organisation étaient en visite ici, à la Deutsche Welle. Et Noémie Miro, vous êtes ressortie de cette rencontre, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles.
22 pays membres, un budget de 5 750 millions d'euros. L'agence spatiale européenne, vous l'aurez compris, ça n'est pas une petite organisation, c'est même la troisième agence spatiale au monde après la NASA et l'agence spatiale fédérale russe.
Ces programmes peuvent aller de l'observation de la Terre au développement de fusées telles que Ariane, en passant par la participation de l'Europe à des missions habitées. Nous avons aussi du développement de télécommunications ou des grandes missions scientifiques en astrophysique et en astronomie.
Et vous entendiez à l'instant Jocelyne Landau-Constantin, chef du bureau de la communication de l'ESA. Et le projet phare de cette organisation, Noémie, s'appelle Copernicus.
Ce grand programme a été lancé par l'ESA en 2011 pour collecter des données sur la planète. Jocelyne Landau-Constantin nous en dit plus.
La mission Copernic est un projet de l'ESA et de l'Union européenne qui consiste à mettre en place près de 15 satellites qui sont chargés de surveiller le pouls de la Terre, l'état de santé de la Terre, dans plusieurs domaines, avec des systèmes très différents. Certains sont des systèmes optiques, d'autres des systèmes radars. Et on va vérifier l'humidité, on va vérifier le développement des champs, on va vérifier toutes sortes de domaines qui permettront de surveiller l'évolution climatique.
Prendre le pouls de la Terre, ça peut paraître un peu abstrait, mais une fois traitées, les données récoltées permettent d'agir concrètement sur notre environnement, comme l'explique Bianca Horsch, directrice de la mission Sentinelle.
Un exemple qui date de la semaine dernière, au niveau du littoral de l'Afrique du Sud, on a vu qu'il y avait une augmentation importante de la température de l'eau. Ensuite, on a pu observer une prolifération des algues. Cela menaçait l'économie basée sur la pêche. Avec les données que nous avons récoltées, nous étions en situation d'alerter et de voir comment cela se développait. Par exemple, une barrière a été placée pour préserver l'aquaculture dans cette baie.
Bianca Horsch, directrice de la mission Sentinelle, avec quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire avec les données récoltées dans l'espace. Et puis pour l'ESA, Noémie, il y a deux grosses actualités en ce moment.
Oui, Constance, l'astronaute allemand Alexander Gerst a été nommé commandant de la Station spatiale internationale. Il s'envolera en mai 2018 avec un équipage composé de 3 Russes et de 2 Américains et il retournera sur Terre en novembre de la même année. Le second événement, c'est le retour de l'astronaute français Thomas Pesquet le 1er juin. Membre de l'ESA, il se trouvait sur la Station spatiale internationale depuis novembre 2016. Il a tenu une conférence de presse mardi matin.
Je me sens bien. La gravité a de nouveau une emprise sur moi, ce qui n'est pas facile à expérimenter quand on a été plus léger qu'une plume pendant 6 mois. Mais c'est un processus normal. Mon sens de l'équilibre n'est pas vraiment bon. J'ai besoin d'avoir des personnes autour de moi quand je marche pour ne pas tomber dans les escaliers, par exemple. Mais sinon, je me sens bien. Le processus s'est passé sans difficulté. C'était spectaculaire de rentrer, aussi bien que ce à quoi je m'attendais, même mieux. Donc, content de rentrer sur Terre.
Avec plus de 550 000 abonnés sur Twitter, le spationaute Thomas Pesquet a mitraillé la planète Terre depuis l'espace. Il a atterri vendredi à Cologne pour réaliser toute une série de tests médicaux.
Et j'ai même entendu dire, Noémie, qu'il était allé voter à la représentation française de Cologne pour le premier tour des législatives qui se déroulait pour les Français de l'étranger et donc de l'espace aussi le 4 juin, une semaine plus tôt donc qu'en France. Merci beaucoup pour tous ces détails sur l'ESA. Quant à nous, on se retrouve juste après cette petite pause musicale. Summer days are gone too soon. You shoot the moon and miss completely. And now you're left to face the gloom. The empty room that once smelled sweetly. Of all the flowers you plucked and finally you knew the. Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Vue d'Allemagne, direction le Royaume-Uni, où un nouveau parlement va bientôt entrer en scène, puisque les Britanniques élisent de nouveaux députés le 8 juin. Dans une ambiance post-Brexit particulièrement tendue et aggravée par une série d'attentats à Manchester fin mai, puis près du London Bridge dans la capitale le 3 juin, alors que le pays est plus divisé que jamais sur son avenir, les partis politiques tentent de redistribuer leurs cartes. Mais au-delà de ces élections nationales, pour l'Écosse, région déjà semi-autonome et surtout très pro-européenne, un avenir au sein de l'Union européenne compte désormais plus qu'au sein du Royaume-Uni. Rappelons que dans cette région, 62% des électeurs ont voté contre le Brexit. Reportage à Édimbourg de Mélissa Chemam.
Dans le quartier de Leith, au nord d'Édimbourg, ces militants du SNP, le Parti national écossais, trient leurs outils de campagne. Ce quartier du nord de la capitale écossaise comprend les anciens docks et a longtemps voté pour les travaillistes. Mais depuis une dizaine d'années, le soutien au Labour Party s'est effondré. Pour Jane, Phil et Katie, le Scottish National Party incarne désormais la vraie gauche alternative.
Il n'y a que le NSP qui peut vraiment se battre pour nous, vous voyez, notamment sur le plan international, en Europe, mais aussi à Londres. C'est là que les Écossais en ont le plus besoin. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons nous faire entendre.
La première ministre écossaise Nicola Sturgeon, leader du SNP, ne défend pas seulement le projet d'indépendance de l'Écosse. Elle attaque les conservateurs sur le terrain économique et s'oppose à leur politique d'austérité. Face au choix du Brexit, pour Phil, le SNP est donc indispensable.
Oh yeah, Brexit, I don't think the people of...
Je ne pense pas que les Britanniques ont compris pourquoi ils votaient. La campagne a été tellement mensongère. Beaucoup de gens n'ont pas compris les conséquences liées à ce vote. C'est vraiment embarrassant. Je me sens honteux parfois d'être britannique, même si je me sens plus écossais que britannique. Je pense que la plupart des Britanniques sont aussi embarrassés par ce choix que les Américains par Trump. Cette décision n'a aucun sens à aucun niveau.
Selon Jeremy Valentine, enseignant en études culturelles à l'université Queen Margaret, un Anglais installé à Édimbourg depuis 2000, personne n'a vraiment anticipé en Angleterre qu'un oui au Brexit encouragerait les Écossais à demander de nouveau leur indépendance.
Si les gens votaient de manière rationnelle, ils auraient pensé à cela. Mais je ne pense pas qu'en votant pour le Brexit, les Britanniques ont anticipé les conséquences internes pour le Royaume-Uni. L'indépendance de l'Écosse a été rejetée en 2014 par référendum, donc le sujet a été mis de côté. Les électeurs ont voté pour le Brexit en exprimant leur avis sur le coût des gouvernements britanniques et européens pour dire quelle part de leurs impôts doit servir à payer les administrations et toute cette bureaucratie. Et le scepticisme domine quand on parle de gouvernement et d'hommes politiques.
Par contre, selon Gordon Guthrie, auteur d'un livre sur l'avenir de l'Écosse, personne ne pouvait imaginer le Brexit depuis les villes écossaises comme Glasgow ou Dundee. Il explique le choix du Brexit par une nostalgie de l'Empire chez de nombreux Anglais. Face à un royaume brisé, les Écossais n'ont donc pour lui qu'une option, se reconstruire seuls et au sein de l'Union européenne.
Ce qui se passe en Écosse est une conséquence des échecs du gouvernement de Westminster. Le Royaume-Uni a longtemps vécu avec l'idée qu'il dominait le monde, et ce n'est plus le cas. Bien sûr, cela reste un bon endroit pour vivre. Nous avons un excellent niveau de vie, une culture très riche, mais les institutions politiques sont vraiment endommagées. Ce n'est pas que nous sommes plus faibles, c'est le reste du monde qui a changé et gagné en puissance.
Si les Anglais voient souvent l'Union européenne comme une bureaucratie antidémocratique, pour les Écossais, l'Europe représente au contraire des garanties pour l'environnement et pour les droits sociaux.
Quand on voit le rejet américain de l'accord de Paris sur le climat, nous, en Écosse, sommes pour les énergies renouvelables. C'est ce que nous développons ici. Et Theresa May est la seule dirigeante à ne pas avoir condamné le choix de Donald Trump, contrairement à Merkel et Macron. J'ai honte d'entendre ça. Je ne veux rien avoir à faire avec ce genre de point de vue. L'Écosse a voté largement pour rester dans l'Europe. Nous nous voyons d'abord comme Européens avant d'être Britanniques. Pas tout le monde, mais la plupart des Écossais. Pour nous, il ne s'agit pas que du Brexit, il s'agit de défendre nos valeurs. Par exemple, une redistribution décente des richesses du pays. Et je pense que c'est ce qui nous rapproche.
Difficile de prédire si la route vers l'indépendance et une entrée dans l'Union européenne de l'Écosse sera rapide ou même possible. Mais pour une large majorité d'Écossais, c'est donc désormais une priorité, bien plus que les élections à Westminster.
Mélissa Chemam en vadrouille pour nous à Édimbourg, en Écosse. Un reportage à retrouver sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque. Et puis si vous voulez nous écrire, il suffit de nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss. I should be wiser and really